Sur le pont des arts avec Nathalie Amard, du lundi au jeudi à 15h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, il est 4h à Nouk, 7h à Paris.
Andréane Mélard.
Et 6h en temps universel. Bonjour Julien Coquelrohem.
Bonjour Andréane. Un an de présidence Trump 2.0, un an de coups d'éclat et de bouleversement depuis son retour au pouvoir en ce 20 janvier. RFI vous fait entendre toute la journée ce que le deuxième mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche a déjà changé. Nous sommes aux États-Unis et au Groenland dans un instant. L'actualité ce matin, c'est aussi la France et Sébastien Lecornu qui engage la responsabilité de son gouvernement pour faire passer le budget. Il ne devrait pas chuter, mais le chemin n'est pas terminé. Dans ce journal également, la Syrie, l'accord de cessez-le-feu entre Damas et les combattants kurdes et l'enjeu des prisons de djihadistes que ces derniers contrôlaient jusqu'ici. Et puis un triomphe à Dakar, les joueurs du Sénégal victorieux de la CAN sont rentrés au pays dans la nuit.
C'est une année qui, sans aucun doute, a durablement changé la face du monde.
C'était il y a un an, jour pour jour, à Washington, sur un ton revanchard et la promesse de placer l'Amérique d'abord. Donald Trump retrouvait la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quittée. C'est peu dire depuis que les États-Unis sont méconnaissables. Un an de présidence Trump, marqué notamment par un durcissement sans précédent de la répression migratoire. Des millions de personnes vivent aujourd'hui dans la peur constante d'être arrêtées par l'agence ICE, la police de l'immigration, ses agents masqués et surarmés, responsables il y a 2 semaines notamment du décès par balle de René Good qui a déclenché la colère à Minneapolis et dans tout le pays. Quel regard portent aujourd'hui sur cette question ceux qui ont voté pour Donald Trump en 2024? Reportage en Virginie occidentale, un état qui a voté à 70% pour le président et où les républicains le soutiennent encore largement aujourd'hui, Vincent Souriau.
Les descentes musclées de l'administration Trump dans le Minnesota, l'envoi d'agents supplémentaires après la mort de René Good, cette électrice républicaine n'y voit aucun inconvénient.
Nous soutenons le président Trump, ses mesures sur l'immigration et sa présidence de manière générale.
Ce n'est pas ICE le problème, ajoute son mari. Ce sont ces manifestants, ces militants, dit-il, qui défient l'autorité de l'administration américaine.
Je soutiens nos agents d'ICE, ce qu'ils sont en train de faire. Et je trouve que ce qui se passe à Minneapolis est une honte. Je pense que ça ne devrait pas arriver aux États-Unis. Je suis du côté des forces de l'ordre, quelles qu'elles soient.
À quelques mètres de là, un homme tend l'oreille. Lui aussi a voté Trump, mais en 2016. Cette fois-ci, il s'est abstenu. Et sur l'immigration, ses premiers mois, dit-il, lui ont donné raison.
On est en train de devenir comme les pays communistes, où le gouvernement a tous les pouvoirs. Avant de tirer sur nos propres citoyens, il y a des procédures à respecter et ils ne le font pas.
Quoi qu'on en dise, affirme-t-il, ce n'est pas bon pour l'image des États-Unis. Vincent Souriau, Charleston, RFI.
À l'image des États-Unis, celle d'un isolement croissant et d'un repli. Depuis un an, le monde a changé depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Avec le désengagement des États-Unis, de nombreuses institutions de l'ONU notamment, avec la guerre commerciale lancée contre la Terre entière, avec une diplomatie du coup d'éclat à Gaza, en Ukraine, les frappes en Iran cet été ou plus récemment, l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela. Ce qui fait la une depuis, ce sont aussi les menaces de Donald Trump contre le Groenland qui veut annexer le territoire autonome danois. Coûte que coûte, quitte à employer la force. Sur place, le bilan des coups de menton du président américain, c'est un rapprochement inattendu entre le Groenland et le Danemark. Reportage à Nouk, Ottilia Ferret.
Faire front ensemble contre Trump, là est désormais la priorité pour beaucoup de Groenlandais, comme l'explique Najangwak Hegelund.
Beaucoup se sont fortement rapprochés du Danemark, surtout depuis ce qu'il s'est passé au Venezuela et toutes les déclarations de Trump depuis. Je crois que l'attitude des gens par rapport à l'indépendance du Groenland maintenant, c'est pas tout de suite, mais peut-être dans l'avenir.
Pour la politicienne Tilje Martinussen, le soutien du Danemark participe à calmer un peu la population en Groenland, qui est très inquiète et qui se prépare au pire une attaque ou une invasion américaine.
Les gens ici remettent en marche les générateurs et prennent leurs fusils de chasse et les munitions qui vont avec. Nous sommes une nation de chasseurs. Tous ceux qui savent tirer, si nous étions envahis,
je pense qu'il le ferait. Nous avons l'habitude d'attendre que le mauvais temps passe. Donc, même si nous étions envahis, et même si c'était sous Donald Trump, nous attendrions qu'il meure ou qu'il ne soit plus président, puis nous parlerions au suivant en disant « Hey, ils nous ont volés, rendez-nous au Danemark et on réglera le reste à partir de là. »
Les 57 000 habitants du Groenland savent qu'ils ne font en aucun cas le poids seuls en cas d'invasion américaine. Le soutien danois ou européen est pour eux primordial à l'heure actuelle. Ottilia Ferré, Nook, RFI.
Et les tensions entre Washington et l'Europe sur le dossier du Groenland toujours à la une ce matin, alors qu'hier un message de Donald Trump au Premier ministre norvégien a été rendu public. Le président américain justifie sa volonté d'annexer le Groenland par son échec à obtenir le prix Nobel de la paix, après avoir déjà menacé ce week-end 8 pays européens de nouvelles surtaxes douanières si un accord n'est pas trouvé pour lui vendre le territoire. Son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a mis en garde hier l'Union européenne, jugeant que des mesures de rétorsion seraient très mal avisées, et Donald Trump affirme à l'instant même que les Européens ne vont pas résister beaucoup à son projet.
Et dans ce contexte, des voix célèbres s'élèvent depuis un an aux États-Unis contre le président américain.
Si Hollywood reste quelque peu tétanisé, le monde de la musique s'est lui lancé dans la résistance, Olivier Roger.
De Pharrell Williams à Billie Eilish, en passant par Sabrina Carpenter, Céline Dion, Rihanna, les Foo Fighters, si l'on devait organiser un festival avec tous les artistes qui ont interdit à Trump d'utiliser leur musique, on pourrait danser jusqu'à l'aube. Parmi ses plus violents détracteurs, le rocker Bruce Springsteen, qui en mai dernier en Angleterre a ouvert son concert par ces mots. L'Amérique que j'aime, mon foyer, celui sur lequel j'écris, est actuellement aux mains d'une administration corrompue, incompétente et traîtresse. Autre mégastar, Neil Young publie désormais sur son site des appels au soulèvement pacifique contre Trump, mais le plus violent contempteur du président américain est aussi l'artiste le plus écouté dans le monde, le portoricain Bad Bunny. Il refuse de faire des concerts aux USA de peur que la police anti-immigration n'y débarque. Il s'est même moqué du président dans son dernier album, avec cette voix artificielle d'un faux Trump déclarant sa flamme aux immigrés latinos. De l'autre côté du spectre, les rockers ou rappeurs fans de Trump sont nettement moins nombreux. Kid Rock et Ted Nugent en font partie, de même que Nicki Minaj et Kanye West. Le rappeur autrefois adulé a sombré dans toutes sortes de provocations révélatrices de ses problèmes psychologiques.
Olivier Roger, les États-Unis et le monde. Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on continue d'en parler toute la journée sur RFI, avec notamment votre édition spéciale. Andréane, c'est à suivre dans un peu plus d'une heure à 7h10, temps universel.
Dans le reste de l'actualité ce matin, Julien, la France est la fin de l'hésitation pour Sébastien Lecornu.
Fallait-il passer par des ordonnances ou engager la responsabilité de son gouvernement pour faire enfin adopter le budget 2026? Le Premier ministre a finalement choisi la deuxième option, le fameux article 49.3 de la Constitution. Après de longues négociations auprès de son alliance gouvernementale et du Parti Socialiste, il devrait éviter de chuter aujourd'hui face aux motions de censure des députés. Mais le feuilleton budgétaire est encore loin d'être terminé, Aurélien de Vernoy.
C'est dans 15 jours qu'on saura si tout cela est un échec complet ou pas.
Prudent, Sébastien Lecornu. Même si le Premier ministre a largement déminé la voie pour doter la France d'un budget, il devra sans doute affronter une demi-douzaine de motions de censure au fil des 3-49-3 obligatoires pour toucher au but, volet dépenses, volet recettes et texte général, alors le Premier ministre avertit.
Désormais, c'est à la représentation nationale de prendre aussi sa responsabilité. Est-ce qu'on renoue avec un scénario de crise ou est-ce qu'après tous ces efforts de compromis, on va vers une sortie au fond de cette mauvaise séquence que nous connaissons depuis le mois de septembre?
Car dans l'alliance gouvernementale, certains grognent, comme le patron des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez.
C'est un budget très imparfait. Donc maintenant, on va le regarder dans le détail, parce qu'il y a plein de zones qui ne sont pas encore clarifiées.
Or, sans LR, le gouvernement entre en territoire inconnu, mais Sébastien Lecornu rappelle que tout le monde a été servi.
Laurent Wauquiez m'a demandé à de nombreuses reprises qu'il n'y ait aucun impact sur l'impôt sur le revenu. L'ensemble du barème sera dégelé comme Laurent Wauquiez nous l'a demandé.
L'entourage du Premier ministre reconnaît toutefois que des détails restent à régler pour sécuriser la non-censure, notamment sur les économies de l'État. Mais si Sébastien Lecornu sort indemne de la séquence budgétaire, son capital politique bondira. Tant mieux pour suivre ses proches, car les prochains mois s'annoncent chargés avec notamment des projets de loi épineux, comme celui sur la fin de vie qui arrive en discussion au Sénat ce mardi.
Aurélien de Vernois.
En Syrie, la paix n'est pas encore acquise dans le nord-est du pays.
Les affrontements se sont poursuivis hier sporadiquement entre l'armée du gouvernement et les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes, et ce malgré l'accord de cessez-le-feu conclu dimanche entre les deux parties. Un texte qui prévoit notamment la prise en charge par Damas des prisons et des camps où sont détenus les membres de l'organisation État islamique. Ce sont les Kurdes qui les contrôlaient jusqu'ici. C'est le cas notamment pour la prison d'Al-Aktan à Raqqa, où des milliers de prisonniers sont présumés terroristes ou proches de l'EI. Manon Chaplin, vous vous êtes rendu sur place hier.
Oui, et les forces démocratiques syriennes ont affirmé hier dans la matinée que 9 de leurs combattants qui gardaient la prison y avaient été tués lors d'affrontements avec les forces gouvernementales. Dans un communiqué, elles accusent des factions affiliées à Damas, affirmation qui a dans la foulée été démentie par les autorités. Lorsque nous sommes arrivés sur place en début d'après-midi, la situation était plutôt calme. Des avions de la coalition internationale anti-djihadiste survolaient la prison. Des convois de soldats armés pénétraient eux tour à tour à l'intérieur. Un peu plus tard, Damas a à son tour accusé les FDS d'avoir relâché des détenus djihadistes de la prison d'Al-Shadadi à Saké dans le nord, et ce comme un moyen de pression suite à l'offensive. Un couvre-feu a dans la foulée été décrété. Le gouvernement a mis en garde les forces kurdes contre toute tentative de libération des détenus. L'exactitude des faits qui se sont déroulés demeure floue. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de ces prisons est un enjeu crucial pour la sécurisation du pays. Il y a aussi des ressortissants européens, français, américains. Ce sera donc une question scrutée de près par la coalition internationale dans les prochains jours. Manon Chaplin, à Raqqa, RFI.
Et hier, le président syrien Ahmed al-Shara et Donald Trump se sont appelés. Les deux hommes ont parlé notamment des garanties, des droits pour les Kurdes dans le nord-est syrien.
Et puis eux ont ramené la coupe à la maison hier soir. Retour triomphal des Lions de la Teranga.
Les joueurs du Sénégal, victorieux de la CAN, ont atterri à minuit à Dakar. Et pour fêter leur deuxième étoile sur le maillot, un millier de supporters les attendaient aux portes de l'aéroport. Pauline Le Troquier était avec eux.
Il est 1h du matin quand le bus des Lions passe enfin, le temps de quelques secondes, devant une foule de supporters en liesse. Une récompense inestimable pour Awa, qui patiente depuis 14 heures sur place.
Je ne peux même pas exprimer ça. Je ne comprends même pas ce qui vient de passer maintenant. Les Lions du Sénégal, ils ont fait ce qu'il fallait. Fier d'être sénégalais quand même.
Sidi est venu de Pikine, en banlieue de Dakar. Si ce jeune Algérien né au Sénégal célèbre la victoire des Lions de la Teranga, il tient à adresser un message de fraternité à l'équipe marocaine.
Malheureusement, notre frère marocain a perdu. On l'encourage encore pour que la prochaine fois, il fasse mieux. Je le félicite. Ce qu'ils ont fait, c'était très bon. On est avec l'Afrique, on est tous ensemble. Vive le Sénégal, vive l'Algérie, vive l'Afrique, vive le Maroc.
À peine cette deuxième étoile décrochée pour le Sénégal, il est déjà temps de penser au Mondial de football 2026 pour certains. Confiance du côté de ce groupe de supporters.
On est prêt pour affronter la France et pour en battre tout le monde, tous les Européens. Nous on est là. On arrive à bientôt pour gagner la Coupe du Monde. Sénégal seul.
Avant de se projeter vers une autre compétition, les champions d'Afrique défileront dans les rues de la capitale sénégalaise ce matin à partir de 11h. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
Et à Dakar, en fait, il est 6h13, Andréane Mellard.
Merci Julien Coquelrohem. 7h13 à Paris, dans 5 minutes, notre grand invité international, Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen. D'abord, on continue de parler football un tout petit peu. Avec vous Baptiste Leduc, et on parle plus précisément Ligue des Champions qui est de retour en Europe avec un très beau programme ce mardi.
Vous aurez l'embarras du choix, Andréane, ce soir à partir de 20h en temps universel. Le choc le plus alléchant, c'est peut-être Inter Milan Arsenal, le leader de Serie A contre le leader de Première Ligue. Mais si vous préférez, le champion en titre de la Ligue des Champions sera aussi de sortie ce soir. Le PSG se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal. La course au top 8 fait rage. Alors ce soir, face au Portugais, les Parisiens ne comptent pas laisser filer les points. Écoutez Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, en conférence de presse d'avant-match.
Je pense que c'est un moment important dans la Champions League parce qu'il arrive les deux derniers matchs et les matchs qu'il espère demain avec en face à une équipe comme Sporting de Portugal est compliqué parce qu'ils sont une équipe avec des joueurs de qualité. Ils aiment avoir le ballon, ils se défendent bien et ce sera serré, compliqué, peut-être similaire à ce qu'on a vu à Bilbao contre l'Athletic. L'objectif c'est de gagner demain et avoir pratiquement assurer la qualification à les huitièmes.
Sporting Portugal PSG ce soir à Lisbonne. En même temps, il y aura Real Madrid AS Monaco, Kylian Mbappé contre son club formateur. Les Monégasques en crise de résultats veulent retrouver le sourire en Espagne. On écoute l'entraîneur belge de l'ASM, Sébastien Pocognoli.
Je pense qu'on va devoir surtout nous être à un très bon niveau pour parler de faire douter l'adversaire. Pour nous, c'est pareil. Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? On a montré dans des grands matchs qu'on est présent au moment où on nous attend pas. Et dans des moments plus abordables, vu le calendrier, où on n'est pas là, pour diverses raisons qu'on a déjà parlé. Mais dans le football, il n'y a pas une vérité exacte par rapport au moment où on rencontre un adversaire, je pense.
Et si ce Real Madrid AS Monaco n'a pas fini de vous convaincre de suivre la Ligue des Champions ce soir, Andréane, une dernière affiche un peu plus originale à vous proposer, Tottenham contre le Borussia Dortmund.
Oh non, mais on était convaincus, il n'y a pas de problème. Du basket pour finir, Baptiste, avec la NBA, Victor Wembanyama est en forme.
Le géant français des San Antonio Spurs a passé la barre des 30 points hier contre Utah dans la victoire de son équipe face au Jazz. Victor Wembanyama, porté peut-être par cette grande nouvelle, il fait partie des 5 titulaires de la conférence Ouest pour le All-Star Game. Un des grands moments de la saison en NBA où les meilleurs joueurs de la Ligue s'affrontent. Ce sera le 15 février à Los Angeles et c'est la toute première fois de l'histoire de la NBA qu'un Français fait partie des 5 premiers joueurs sélectionnés. J'ai tout juste le temps de vous parler de l'Open d'Australie en tennis avec l'entrée en lice du double tenant du titre ce mardi, Yannick Sinner face à Hugo Gaston. Ça devrait démarrer dans un peu moins de 2 heures maintenant.
Baptiste Leduc pour l'Infosport. Et tout de suite, c'est aujourd'hui l'économie avec vous. Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour Andréane.
On en parle toute cette matinée sur RFI. Aujourd'hui, 20 janvier, cela fait un an, jour pour jour, depuis l'investiture de Donald Trump pour son second mandat. Et pendant cette année, on a beaucoup parlé, notamment avec vous Stéphane, de sa politique commerciale internationale avec ses différentes décisions concernant les droits de douane. Le Mexique semblait particulièrement exposé à cette vaste offensive protectionniste américaine. Un an plus tard, Stéphane, les fait observer dessine un tableau bien plus nuancé.
Oui, pour comprendre un chiffre, plus de 80% des exportations mexicaines partent vers les États-Unis. Automobiles, pièces détachées, électroniques, électroménagers, équipements industriels, le Mexique est devenu l'atelier industriel de l'Amérique du Nord, à tel point que depuis 3 ans maintenant, depuis 2023, le pays est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis devant la Chine. La réciproque est d'autant plus vraie et d'autant plus compliquée pour le Mexique. Le pays dépend énormément de son voisin du Nord et la croissance repose principalement sur un modèle d'assemblage avec peu de valeur ajoutée locale. En résumé, Andréane, quand Washington tousse, c'est Mexico qui est grippé.
Donc, quand Donald Trump a appliqué ses droits de douane sur le Mexique, ça aurait dû, sur le papier, être un choc majeur pour le pays.
Exactement, car quand on parle de droits de douane de 25% sur certaines exportations mexicaines, hein, jusqu'à 50% sur l'acier et sur l'aluminium, alors Donald Trump menace aussi l'ACEOM, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et quand on repense au poids des exportations du Mexique qu'on vient d'évoquer vers les entreprises américaines, on se dit que ces mesures auraient logiquement dû provoquer une récession mexicaine. Mais voilà, un an plus tard, la réalité est bien plus nuancée, car ces exportations, précisément, ont continué d'augmenter l'année passée.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe?
Eh bien, pour ça, il faut dézoomer la carte et regarder le planisphère dans son intégralité. Ça n'a échappé à personne. Donald Trump mène une guerre commerciale contre le monde entier et surtout contre la Chine. En moyenne, les droits de douane sont de 5% pour le Mexique, 40% pour Pékin. Les produits chinois sont donc bien plus taxés. C'est donc finalement du bon sens. Quand une entreprise américaine cherche un fournisseur alternatif à la Chine, elle se tourne vers le Mexique.
On peut dire, Stéphane, que le Mexique est un gagnant relatif de la guerre commerciale.
Ah oui, et la stratégie est bien en place, car plutôt que de produire à l'autre bout du monde, les entreprises produisent au plus près du marché américain et si possible dans un pays peu taxé. Le Mexique est ainsi la solution et attire des industriels américains mais aussi asiatiques et européens qui veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Mais cette solution, attention, elle n'est pas garantie dans la durée. Car si Donald Trump change les règles, comme par exemple augmenter brutalement les droits de douane, ça peut tout changer.
Et donc, pour la présidente mexicaine, l'idée, c'est de ne pas affronter son homologue américain pour rester sur ce statu quo.
Tout à fait. Claudia Sheinbaum a désamorcé, disons-le, hein, les menaces américaines en envoyant des soldats à la frontière, en luttant contre le trafic de fentanyl et même en imposant des droits de douane à la Chine. Et ça fonctionne, on vient de le voir. Alors à court terme, le Mexique résiste et exporte davantage car il profite finalement du recul chinois. Sur le moyen terme, ce qui va être intéressant à observer, c'est l'amplification ou pas de la dépendance du pays aux États-Unis. Car mine de rien, Andréane, le Mexique reste aujourd'hui sous pression.
Stéphane Genest pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, l'économie sur RFI. 7h19 à Paris, on passe à notre invité. En ligne avec nous ce matin de Bruxelles, l'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, répond aux questions d'Arnaud Pontus.
Bonjour Charles Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Il y a un an, tout juste, Donald Trump faisait son retour à la présidence des États-Unis. Depuis, il n'a de cesse de taper sur l'Europe jusqu'à menacer d'annexion le Groenland. Est-ce que les Européens ont aujourd'hui un ennemi à la Maison-Blanche ?
Je ne parle pas d'un ennemi, je pense qu'il faut simplement être lucide. La relation transatlantique telle qu'on l'a connue pendant des décennies est fondée dans le sang de la Deuxième Guerre mondiale. Cette relation-là, elle est morte. Et on va devoir donc construire une nouvelle relation. Et pour cela, il va falloir sans doute passer par un moment de confrontation, un moment qui sera peut-être dur sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Mais c'est le moment pour l'Union européenne de bomber le torse et de dire maintenant ça suffit, maintenant nous devons être respectés.
Maintenant ça suffit, nous devons être respectés, dites-vous. L'affaire du moment, c'est évidemment la volonté d'annexion du Groenland par les États-Unis. Et Donald Trump en a rajouté une couche il y a quelques minutes. Je ne pense pas que les dirigeants européens vont résister beaucoup à mon projet. Est-ce qu'il a tort, Charles Michel ?
Mais j'espère de tout mon cœur qu'il a tort, et je pense que c'est un moment de vérité pour l'Union européenne et pour le leadership européen. Il y aura dans quelques heures à Bruxelles un conseil européen initié par mon successeur, Antonio Costa. Et c'est le moment de faire la clarté, de faire l'unité de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis quelques années maintenant, et ça s'est accru depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, son retour plus exactement, tous les piliers qui ont fondé le projet européen sont attaqués. D'une part, la guerre déclenchée menace la paix sur le continent européen, cette guerre déclenchée par la Russie. En termes de compétitivité, la guerre commerciale déclenchée contre le reste du monde, y compris par l'Union européenne, est évidemment une menace pour notre avenir en termes de prospérité. Et puis on voit bien que même sur le plan démocratique, on voit des tentatives d'interférence dans un certain nombre de débats démocratiques sur le plan européen qui ne sont pas acceptables. Et donc moi je pense que c'est le moment de la lucidité, le moment de la force, et ça veut dire, par conséquent, qu'on doit être extrêmement clair et utiliser les moyens à notre disposition. Nous ne sommes pas sans moyens. On entend trop souvent que l'Union européenne ne peut pas résister, n'a pas la force, n'a pas les capacités. Si, je prends par exemple le marché européen, 450 millions de consommateurs, est vital pour les grandes entreprises digitales américaines, par exemple.
Oui, on va venir aux possibilités de réplique, aux possibilités de réponse. Mais dans votre réponse, vous venez de me dire « j'espère qu'il aura tort » en parlant de Donald Trump, en disant que les dirigeants européens vont résister beaucoup. Est-ce que ça veut dire que vous avez tout de même un doute sur, non pas la capacité de résistance, mais la volonté de résistance des dirigeants européens aujourd'hui ?
C'est que si j'ai un sentiment mitigé et j'espère que les bonnes décisions seront prises, c'est parce que j'ai observé les derniers mois trop peu de résistance et au contraire, j'ai observé, je pense que c'est une erreur majeure qui a été commise par certains de mes anciens collègues, il y a eu le développement de ce que j'appelle la diplomatie de la flatterie, la diplomatie de la complaisance et de l'apaisement. Et en fait, ça ne fonctionne pas, c'est même contre-productif. Et on voit bien qu'au plus, il y a eu ces compliments parfois lâches, il faut bien le dire, et cette flatterie parfois lâche, il faut bien le dire, au plus ça a accentué la gourmandise de la Maison-Blanche et au plus ça a aggravé et déséquilibré cette relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Notre souhait évidemment, et mon souhait aussi, c'est d'avoir une relation respectueuse, équilibrée, efficace entre les États-Unis et l'Union européenne.
Et ce n'est pas le cas. Vous nous décrivez une Europe qui a été immensément molle, lâche face aux États-Unis.
Je pense que les derniers mois et en réalité la dernière année, l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche n'a pas été l'occasion, malheureusement jusqu'ici, pour l'Union européenne de révéler sa puissance, de révéler sa force et de révéler aussi sa capacité à défendre notre vision de l'Europe dans le monde, que ce soit sur le plan économique. Vous avez vu, lorsque nous avons été menacés dans le cadre de cette guerre commerciale, et lorsqu'à la fin on nous impose 15% de tarifs et que l'on a un pouce levé et un sourire en réponse, ça fait preuve, à mon avis, d'une très grave naïveté, si pas d'une faute coupable. C'est un élément qui a enclenché une aggravation et effectivement une tentation d'aller toujours plus loin dans la volonté de menacer, d'intimider et à la fin de faire mal au projet européen.
Menace, intimidation. Hier encore, on a entendu le porte-parole adjoint de la Commission européenne appeler à la retenue face aux menaces de Trump. Notre priorité est le dialogue, pas l'escalade, a-t-il dit. Ça veut dire que la Commission européenne a acté que ils ne feront rien.
Il y a une formule latine qui dit l'erreur est humaine, mais s'entêter est diabolique.
Oui, on s'entête de toute évidence.
Un âne ne trébuche pas deux fois sur la même pierre. Et donc, j'espère que les leaders européens vont tirer les leçons des derniers mois. Que faut-il de plus ? Que faut-il de plus dès lors qu'il y a devant nous une grave ambiguïté des États-Unis, sinon une complaisance vis-à-vis de la Russie ? Que faut-il de plus dans le cadre d'une guerre commerciale qui nous affecte durement ? Et que faut-il de plus lorsque maintenant nous sommes confrontés à des menaces directes sur la souveraineté de nos États membres.
À qui la faute de cette faiblesse, Charles Michel ? Les dirigeants européens dans leur ensemble ? La Commission européenne, Ursula von der Leyen ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qu'il faudrait blâmer ?
Moi, je ne veux pas personnaliser le débat à ce stade, en tout cas. Simplement, j'observe que depuis les derniers mois, un certain nombre de moments extrêmement importants ont été manqués. Ça a été le cas certainement durant l'été, au moment où les négociations ont été finalisées entre la Maison-Blanche et la Commission européenne.
Sur les droits de douane.
À mon avis, c'est un moment très triste pour l'Union européenne, à mon avis. C'est un premier point. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, nous n'étions que quelques-uns, il y a quelques années avant la guerre contre l'Ukraine, a plaidé pour ce qu'on a appelé l'autonomie stratégique de l'Union européenne, la souveraineté de l'Union européenne. Le président français était très clairvoyant sur le sujet. J'étais clairement, et je suis de son côté, sur cette ambition d'indépendance et de souveraineté pour l'Union européenne. Mais à ce moment-là, c'est vrai que nous, Emmanuel Macron, moi, d'autres, nous faisions face à beaucoup de vents contraires sur le plan de l'Union européenne, et y compris de la part de la Commission européenne. On l'a vu précédemment, même avec l'administration de Joe Biden, lorsque des décisions ont été prises qui faisaient mal à la compétitivité européenne, on a eu chaque fois une tentative de complaisance.
Un endormissement collectif.
Une forme de léthargie.
L'Europe telle qu'on la connaît depuis des années, Charles Michel.
Non, pas depuis quelques années. Lorsqu'il y a eu la crise contre le Covid, nous avons réagi en quelques mois. Nous avons réussi à contrer cette pandémie et à initier des emprunts communs qui ont montré la solidarité européenne sur le plan économique. Lorsque Vladimir Poutine a envahi...
Donc on peut le faire. Vous nous dites qu'on peut le faire.
Mais évidemment, et l'histoire de l'Europe a montré que dans des moments difficiles, les leaders européens ont été capables d'être visionnaires et d'être courageux.
Donc depuis c'est le moment de le faire.
Depuis quelques mois, ce que nous voyons est triste, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que dans les prochains jours, nous verrons s'il y a ce sursaut qui est indispensable.
Alors, le sursaut et les mesures, il nous reste à peine une minute malheureusement, mais que doit faire l'Europe face à cette menace d'annexion, doublée, on le rappelle, de menace de surtaxe douanière ? De quel levier dispose l'Union européenne pour... dire à Trump, non, ça ne passera pas.
Nous disposons de différents leviers économiques, et en particulier des mesures contre la coercition. C'est le moment d'activer ces mesures, et il faut être clair. Alors évidemment que nous espérons tous qu'il y ait un dialogue qui puisse soudainement mener à un apaisement, mais je ne sais pas ce que je vois de mon côté. On voit bien qu'au contraire, s'il n'y a pas un acte qui est posé, et pas seulement des discours de langage agréé d'appel à la retenue, ça effectivement, ça doit faire sourire du côté de la Maison Blanche. Ce qu'il faut, c'est montrer que nous avons des instruments, nous sommes prêts à les utiliser. Si par exemple on dit demain, les entreprises américaines n'ont plus accès au marché public européen, si on dit demain, les investissements stratégiques américains sont stoppés, sont gelés sur le sol européen, nous avons une panoplie de mesures qui
peuvent
être
activées
avec une intensité qui peut aller relativement loin.
Il faut agir, je répète, si je vous entends, Jean-Michel. Il faut agir, arrêter de parler.
Je pense, Vous savez, je vais être un peu trivial. Si on vous donne une baffe en diplomatie, vous rendez une baffe et puis vous parlez. Mais on ne peut pas simplement prendre une baffe et puis une deuxième et puis une troisième. Pour l'instant, j'ai le sentiment que la Maison-Blanche met des baffes à l'Union européenne avec en retour un pouce levé et un sourire, voire au sein de l'OTAN, un secrétaire général qui appelle le président Daddy, Papa.
Merci,
ça, c'est la
Charles-Michel.
C'est la flatterie, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Merci à vous, Charles-Michel. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
enfants, parents, mieux se comprendre d'une génération à l'autre.
Demain,
soigner les soignants et faire face aux vulnérabilités.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Un an après son retour au pouvoir, le président américain renouvelle ses menaces sur le territoire autonome danois du Groenland. Des menaces qui sont prises très au sérieux.